partout en Ile-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
C'est l'heure de retrouver Jacqueline Voraz. Elle est partie. Bon, bah, c'est moi qui vais animer à l'émission. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue. L'économie en direct jusqu'à 11h sur IDFM Radio avec Bruno qui est déjà là. Bonjour, Bruno.
Bonjour, bonjour.
En forme au programme de la recette du mardi, comme d'habitude. Je disais soupe aux carottes tout à l'heure. Non, rien à voir.
Rien à voir. Je vous laisse la surprise.
Mais on partira voyager, comme d'habitude.
En France.
En France, d'accord. Voilà. Où ça? En Bretagne, en Corse.
Un peu partout. Ouais. Vous allez voir.
C'est un plat traditionnel français, typique.
Ah oui, c'est un plat traditionnel de la cuisine française. Ouais, classique, on va dire.
À bien préparer, à utiliser les bons
et
ingrédients,
peut-être,
avec un temps de cuisson précis aussi.
Et peut-être donner des idées pour Noël.
Ah, sympa, ça c'est cool. Alors à tout de suite, Bruno.
À tout de suite.
Dans l'émission de Jacqueline Voraz, l'économie en direct. On y va juste après le générique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Voraz au micro de Radio IDFM avec Francky et Christophe à la technique. Bonjour Francky, bonjour Christophe. Bienvenue et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou 98.fr, mais aussi en DAB+ et sur notre appli. Orientation, formation, recrutement, coaching, entrepreneuriat, handicap. Aujourd'hui, mardi 22 novembre, nous avons choisi de vous parler du Salon des transitions professionnelles, puisque le 29 novembre, tout juste dans une semaine, le MEDEF Île-de-France vous donne rendez-vous à la Cité des sciences et de l'industrie pour ce salon, organisé en partenariat avec la préfecture de la région d'Île-de-France, la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, le Conseil régional d'Île-de-France et Pôle emploi. Et pour présenter ce salon, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Djurkev. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans nos studios. Christophe, vous êtes le vice-président des transitions professionnelles Île-de-France, le seul organisme habilité à financer les reconversions professionnelles des salariés du privé. Mais vous nous en direz plus dans quelques instants. À vos côtés, Cédalhomme Folly. Bonjour Cédalhomme.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Cédalhomme, vous êtes la responsable emploi et formation du MEDEF Île-de-France, un vaste chantier dont vous nous dévoilerez les grandes lignes et ses enjeux. Et mon troisième invité, Jean-Marc Paris, bonjour.
Bonjour à vous,
bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Merci également pour votre présence dans nos studios. Vous êtes le délégué général du GATMARIF, un groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, et à ce titre, exposant au Salon des transitions professionnelles.
Et adhérent du MEDEF aussi.
Absolument, oui, bien sûr. Vous êtes tous adhérents du MEDEF. Et à ce titre, exposant au Salon des transitions professionnelles, vous nous rappellerez le rôle essentiel de ce groupement auprès des entreprises de transport et dont la participation à ce salon se déroulera cette année sur fond de pénurie générale de personnel dans ce secteur. Bienvenue et encore et merci à tous les trois de participer en direct à cette émission qui se retrouvera en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr. Mais avant de vous donner la parole aujourd'hui, deux rendez-vous incontournables. Le premier avec Bruno Vigoureux, notre expert en bons petits plats, et je suis certaine que vous allez tous apprécier. Et juste après, un second rendez-vous avec Brieux Maisonneuve, skipper de la route du Rhum, dont nous sommes partenaires. Bonjour Bruno.
Bonjour Jacqueline, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être fidèle au rendez-vous du mardi.
Oh, mais c'est un plaisir.
Ça va bien Jacqueline ce matin?
Oui, ça va bien, bon. À part qu'aujourd'hui j'ai des invités voilà, qui me stressent un petit peu, mais bon, comme toujours.
Où tout va bien se passer.
Qu'est-ce que vous nous avez mijoté aujourd'hui Bruno?
En fait, vous connaissant un peu Jacqueline, je suis sûr que vous avez commencé à vous poser la question, qu'est-ce que je vais faire à dîner pour le réveillon de Noël?
Absolument.
Eh ben oui. Et oui, parce que mine de rien, c'est quasiment dans un mois, alors il faut commencer à y penser. Moi, en tout cas, cette question, je me la suis posée et j'ai peut-être trouvé une réponse, ou du moins un début de réponse. C'est une vieille recette, tellement vieille qu'elle a un peu disparu d'ailleurs de la circulation. Je l'ai faite il y a longtemps, pour un réveillon de Noël déjà, et l'effet de surprise avait été total. Et là, je l'ai retrouvée dans un livre appelé « Cuisine de France » du célébrissime chef Paul Bocuse, le chef de tous les chefs. Alors n'allez surtout pas croire que c'est compliqué parce que ça vient d'un chef. Bocuse, c'est même souvent la simplicité. Et là, on va réaliser un coq au vin. Oui, le bon vieux coq au vin dont les bonnes odeurs vont envahir toute la maison pendant des heures. Vous pouvez préparer ce plat à l'avance, ce qui est toujours appréciable quand on a du monde. Alors pour ce plat, il vous faut naturellement un coq. Alors il faut le commander. On part pour un repas pour 8 personnes, je précise. Donc un coq de 3 kilos, alors c'est à commander à votre volailler. Vous demandez à ce qu'il soit vidé et coupé en morceaux. 2 bouteilles de vin rouge, moi je préconise plutôt du Bourgogne. 1 oignon, 2 carottes, 2 brins de thym, 1 feuille de laurier, 3 gousses d'ail, de l'huile d'arachide et du sel. Pour la garniture, il vous faut 250 g de lard de poitrine, 250 g de champignons de Paris, 100 g de petits oignons, persil, beurre. Alors on y va, on commence. Déjà, la veille, vous mettez les morceaux de coq dans un saladier. Vous épluchez les carottes et l'oignon en fines rondelles et vous les ajoutez au saladier. Vous ajoutez également le thym, le laurier et les grains de poivre. Vous versez le vin sur le coq afin de couvrir le saladier. Et à ce moment-là, vous mettez au froid toute la nuit ou sur votre balcon s'il fait froid. Le lendemain, vous devez égoutter et sécher les morceaux de coq et les légumes. La marinade, vous la filtrez. Vous faites chauffer l'huile dans une grande poêle et vous y faites dorer les morceaux de coq en plusieurs fois et vous les mettez au fur et à mesure dans une grande cocotte en fonte. Vous faites également revenir les légumes, vous les ajoutez dans la cocotte ainsi que les gousses d'ail écrasées. Vous mouillez avec la marinade et vous salez, vous mélangez bien et vous portez à ébullition puis vous couvrez. Vous laissez mijoter à tout petit feu de 1 heure à 2 heures. En fait, le mieux, c'est de demander conseil à votre volailler. Je crois, mais je ne suis pas sûr, mais je crois que cela dépend en fait de l'âge, pas du capitaine, mais du coq. Plus il est vieux, plus faut le faire cuire. Mais posez la question à votre volailler. Vous épluchez les petits oignons et les champignons. Vous enlevez la couenne du lard et vous coupez la poitrine en lardons. Vous faites dorer les lardons, les oignons et les champignons à la poêle, pas forcément avec de la matière grasse, car les lardons vont en rendre déjà eux-mêmes leur graisse. Vous les laissez cuire 8 à 10 minutes environ et vous les ajoutez à la dernière minute dans la cocotte. Vous rectifiez l'assaisonnement parsemé de persil haché. Vous pouvez enfin amener la belle cocotte fumante sur la table et vous allez vous régaler avec ce plat qui reste facile, abordable et vraiment convivial. Oui, le coq au vin reste un grand classique de notre cuisine et il serait dommage de passer à côté. Je suis sûr que vous allez vous régaler avec ce plat, surtout si vous l'accompagnez d'un bon vin de Bourgogne à boire avec modération. Évidemment. Voilà Jacqueline, je vous laisse réfléchir à votre repas de Noël et ce sera peut-être, on ne sait pas, du coq au vin. Et moi, ça me dit bien de refaire ce savoureux plat. Je vais voir. J'espère donc que cette recette vous a plu et aussi qu'elle a plu à Amalia, Marie-Noël, Sophia et les autres. Ce sont mes copines de la salle de sport qui sont actuellement en train de souffrir. Courage les filles, accrochez-vous, je vous retrouve en sortant du studio, je vous embrasse. En attendant, bonne cuisine à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci Bruno. J'avais entendu dire qu'il fallait faire cuire le coq au vin dans le même vin que l'on boit.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit Bourgogne les deux fois, dans un vin, le faire mariner dans du Bourgogne et servir avec du Bourgogne. Oui.
Très bien.
Oui, c'est mieux effectivement.
C'est une bonne recette. Merci beaucoup pour cette bonne idée de Noël. À bientôt Bruno.
Au revoir.
À présent, nous retrouvons par téléphone Brieux Maisonneuve, dirigeant d'Addictive Sailing, skipper de la route du Rhum, et alors qu'il était en tête de sa catégorie multi-rhum, son catamaran CMA 60 000 rebonds, IDFM Radio et bien d'autres partenaires a chaviré brutalement. Bonjour Bruno. Bonjour Brieux, oui. Brieux, pardon, oh là là, excusez-moi, bonjour Brieux.
Bonjour Germaine.
Oui, bien joué. Donc, soulagée de vous savoir vivant, Brieux, et puis contente de vous entendre, car vous nous avez fait très peur ce dimanche matin, où soudainement votre position indiquait qu'il y avait un gros problème.
Oui, alors je crois que j'ai plus fait peur aux gens que moi, j'ai eu le temps d'avoir peur, puisque c'était un chavirage extrêmement rapide. C'était une drôle d'aventure.
Oui, racontez-nous ce qui s'est passé.
Bien, écoutez, dans la nuit du samedi au dimanche, entre le 12 et le 13, là, on passait un front froid extrêmement actif, un peu le même genre de temps que ce qui est en train de passer en ce moment sur la Bretagne et la Normandie, et ce que vous aurez sur la région parisienne, je pense, en fin d'après-midi, c'est-à-dire du vent très instable avec des fortes rafales de vent. Et je me suis d'abord détourné en première partie nuit pour aller porter assistance à une concurrente qui avait dématé. J'ai passé pas mal de temps à tourner autour pour la soutenir et la rassurer. Et puis une fois qu'elle s'est remise en route, moi j'ai remis le cap vers le sud, vers les Açores et l'espoir d'atteindre les Alizés. Et malheureusement, en fin de nuit, il s'est passé deux, trois petits incidents simultanément, c'est-à-dire une rafale de vent, le pilote automatique qui décroche, le bateau qui enfourne dans une vague et qui chavire extrêmement rapidement. Donc ça a été quelque chose d'assez dramatique et qui a des conséquences assez catastrophiques pour moi.
Oui, aujourd'hui, oui. Oui, parce que donc déjà une déception à la hauteur de l'enjeu, bien sûr. Et alors oui, vous êtes sain et sauf, et même si on sait que la victoire est faite d'échecs, vous l'avez déjà prouvé. Voilà une situation nouvelle dure à affronter.
Ouais, c'est assez kafkaïen parce que vous avez d'un côté ce bateau qui est à l'envers, en proche Atlantique, il est à peu près à 400 km au large du Cap Finistère espagnol. Il est probablement encore en bon état, même s'il est retourné. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus le localiser, puisque la balise de détresse a cessé d'émettre. On n'a plus de position. On n'a plus de position GPS, donc aujourd'hui on n'est que sur des éléments prédictifs en fonction des courants, des vagues et du vent, et ce depuis 5 jours. Donc la zone d'incertitude où se situe le bateau est très vaste, et en même temps le bateau retourné est très difficile à localiser.
D'accord. Vous me disiez hier que vous deviez avoir des images satellites via Airbus.
Ouais, exactement, mais ça n'a malheureusement rien donné puisque la nébulosité était encore assez importante. Donc, le bateau n'a pas été vu dans la zone qu'on avait sélectionnée. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y est pas, ou alors est-ce qu'il était sous la couche nuageuse? C'est impossible de savoir.
Pas encore, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, il faut songer au remorquage de ce bateau, qui est votre outil de travail et votre patrimoine.
Oui, exactement. Moi, c'est un bateau, j'ai tout mis dedans. Et c'est un bateau qui me permet de travailler toute l'année. J'ai un plan de charge pour les 12 mois à venir qui est plein. Donc
c'est plein, oui.
Je vous cache pas que c'est assez démoralisant de détricoter déjà toute la saison Antilles qui de toute façon sera annulée. Et puis voilà. Et cette attente est assez assez insoutenable, parce que.
Chaque jour qui passe.
Pour le moment, on peut pas faire grand-chose. En plus, les prévisions météo pour les 8 jours à venir sont épouvantables, avec 6 mètres de creux au large de l'Espagne et des dépressions qui succèdent. Donc, pas beaucoup de moyens d'action pour le moment, si ce n'est essayer de localiser le bateau par tous les moyens possibles.
Alors le projet pédagogique que vous aviez initié en faisant la course du Rhum avec la Chambre des métiers de l'artisanat va probablement se poursuivre. Et pour faire un clin d'œil à 60 000 rebonds, je vous signale que ce matin, mes invités sont tous des représentants du MEDEF Île-de-France où a eu lieu l'anniversaire des 10 ans de 60 000 rebonds.
Ah, excellent. Écoutez, c'est un très bon souvenir puisque c'est à cette occasion qu'on a présenté à 60 000 rebonds le partenariat avec la Chambre des métiers et d'artisanat d'Île-de-France et on avait été très bien reçu justement au siège du MEDEF à Paris.
Très bien. Brieux, j'allais encore vous appeler Bruno. Brieux, je voulais dire donc qu'il y a une cagnotte qui a été mise en ligne pour vous aider à financer le remorquage du bateau. Donc cette cagnotte, c'est addictivesailinglitchi.com et bien sûr j'invite dans la mesure des moyens de chacun à participer à cette cagnotte pour que vous ayez rapidement la somme qu'il faut pour remorquer le bateau.
Ouais, bah c'est très sympa de relayer ça parce que effectivement, ce sont des opérations extrêmement coûteuses. Mmh. Hein, une photo de satellite, c'est 3 000 euros. Mmh. Un avion de recherche aérienne pour essayer d'aller localiser le bateau, c'est de l'ordre des 10 000 euros les 3 heures de vol pour aller sur zone.
Oui.
Et le remorquage en tant que tel, on est sur des ordres de grandeur qui vont de 300 à 100 000 euros en fonction des moyens mis en œuvre.
Oui, des sommes vertigineuses. Merci. Brieux.
Et évidemment, comme le bateau était en course et en solitaire, il n'y avait aucune possibilité de s'assurer.
Oui.
Donc moi, j'avais évalué les risques avant de partir. J'estimais que la probabilité à la fois de chavirer et d'être incapable de retrouver le bateau, elle était proche à moins de 1%. Mmh. Mais malheureusement, aujourd'hui, les statistiques n'ont pas joué pour nous.
Oui.
Donc, la situation est extrêmement complexe.
Compliquée, oui. Alors, à défaut de votre journal de bord, puisqu'on devait vous suivre tous les jours avec ce journal de bord, on va quand même continuer de relayer chaque jour votre nouveau combat pour qu'il y ait une issue positive. Et voilà, je voulais vous dire qu'on est tous à fond avec vous et qu'on espère avoir des nouvelles très prochaines, peut-être du remorquage de votre bateau. On le souhaite en tout cas.
Merci Jacqueline. Et puis, je pense que si on arrive à remettre la main sur le bateau, il y aura une formidable histoire à écrire.
Complètement.
Sur la remise en état du bateau, de ce bateau qui va devenir le bateau de la résilience.
Oui, oui.
Et il y aura un très beau truc à faire, mais il faut qu'on le retrouve.
Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, comptez sur nous pour relayer encore et encore Brieux.
Merci
et puis à très bientôt à notre antenne. À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Écoutez IDFM en DAB+, sur toute l'Île-de-France.
Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion, lorsqu'il se pose sur ton corps. Avec un cœur d'occasion, quelques kilomètres au compteur. L'autre est à la casse des illusions. Il est allé se faire ailleurs. J'ai trouvé un cœur d'occasion, sans pare-brise ni rétroviseur, sans ceinture anti-collision. La couleur, mais il marche encore. Il bat même de plus en plus fort. Quand tu t'éveilles, quand tu t'endors, lorsqu'il se pose sur ton corps, sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Avec un cœur d'occasion, lorsqu'il se pose sur ton corps. Je roule avec un cœur d'occasion, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion,
moi qu'il croyait au point mort. Roule avec un cœur d'occasion, comme sur tes chevaux vapeur. Sur la plaque d'immatriculation, il y a le nom de mon âme sœur. J'ai pris un cœur d'occasion, je sens que là-haut est meilleur. Avant j'avais du jeu dans la direction, un problème de frein moteur. Mais il marche encore, pas même de plus en plus fort. Quand tu t'éveilles, quand tu t'endors, lorsqu'il se pose sur ton corps, sur ton corps, sur ton corps. Lorsqu'il se pose sur ton corps, mais il marche encore, mais il marche encore. Je roule avec un cœur d'occasion, moi qui le croyais au point mort.
IDFM 98 ou 98.fr, nous reprenons le thème de notre émission consacrée au Salon des Transitions Professionnelles porté par le MEDEF Île-de-France en présence de Christophe Djurkev, vice-président des Transitions Professionnelles Île-de-France, Cédalom Folly, responsable emploi et formation du MEDEF Île-de-France, Jean-Marc Paris, délégué général du GATMARIF, groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, partenaire du MEDEF, exposant à ce salon des transitions professionnelles. Alors, Christophe Djurkev, je me tourne vers vous tout de suite. Peut-être quelques mots sur votre parcours, Christophe, avant de nous parler du salon des transitions professionnelles.
Oui, si vous le souhaitez. Écoutez, en quelques mots, moi j'ai un parcours qui est un peu atypique, et puis finalement je suis un pur produit de la formation tout au long de la vie.
D'accord.
Voilà, j'ai effectivement fait un parcours professionnel initial dans la en lycée professionnel, et puis j'étais pas très bien, et puis j'ai eu la chance de rater mon bac.
Voilà. Bravo.
Voilà. Et puis je dis j'ai la chance parce qu'effectivement
ça m'a orienté ailleurs
et ça m'a orienté dans une fédération professionnelle qui proposait en contrat de qualification d'aller plus loin et de monter en compétences, et c'est ce que j'ai fait. Et finalement j'ai très rapidement en alternance déjà à l'époque rattrapé pas mal de temps perdu. Et puis je me suis pas arrêté là, puisqu'effectivement après j'ai continué quelques actions de formation continue jusqu'à même une VAE, vous voyez. J'avais 45 ans.
Une VAE, expliquez-nous.
Une validation des acquis d'expérience dans les sciences de l'éducation.
D'accord.
Vous voyez, donc comme quoi on peut passer vraiment d'un univers à un autre en ayant un peu de motivation et un peu de volonté.
Oui, c'est ça. En fait, le modèle de l'école ne vous correspondait pas.
Absolument.
C'est ça. Et vous avez trouvé ailleurs votre voie.
Il me fallait
un
modèle un peu plus professionnel. Et je l'ai trouvé, et j'ai trouvé ma voie dans l'alternance, vous voyez. Et y compris dans la formation continue.
Voilà. Donc vous avez un discours très concret à délivrer à tous ces jeunes qui aujourd'hui...
J'espère, je pense, et déjà très jeune, de toute façon je vantais les mérites de l'alternance et des formations professionnelles, je suis quand même assez ravi qu'aujourd'hui ce soit effectivement encore une thématique qui est abordée.
Oui, alors parce qu'aujourd'hui vous êtes chargé de mission du groupe des industries métallurgiques, un syndicat professionnel, le GIM, qui regroupe la très grande majorité des entreprises et industries métallurgiques, de la région parisienne. Et vos missions, c'est accompagner, conseiller, promouvoir ces entreprises, surtout auprès des jeunes, de l'éducation nationale et des demandeurs d'emploi?
Oui, entre autres, et ma mission principale, c'est quand même ce qu'on appelle la référentialisation. C'est un mot un peu barbare, un peu compliqué, mais qui consiste en fait à écrire avec des référentiels, le référentiel de compétences, les compétences qui sont attendues par les entreprises sur les métiers et les métiers porteurs, les métiers émergents, les métiers de demain.
Voilà. Oui.
Donc c'est une activité qui est un peu spécifique, qui consiste effectivement de passer du champ professionnel, donc c'est-à-dire analyser le travail pour en déterminer des compétences et ensuite s'organiser pour prévoir des formations et accompagner les entreprises pour qu'elles puissent trouver les compétences formées dont elles ont besoin.
Mais peut-être le but, c'est d'inciter aussi les futures générations à rejoindre le secteur industriel.
Ah bien sûr, absolument, bien sûr. Absolument. C'est un secteur comme d'autres évidemment, mais c'est un secteur qui effectivement malheureusement souffre d'un manque d'appétence, d'un manque de personnes, souvent par manque d'informations sur nos métiers. Dans l'industrie, nous avons quand même un certain nombre de métiers totalement innovants. L'industrie recrute, elle innove, elle rémunère, elle se féminise, elle a tout un tas d'atouts et c'est notre mission d'en faire la promotion.
Oui, puis peut-être que dans les années 80, il y a eu un virage d'amorcé au détriment de l'industrie. Oui. Et aujourd'hui, vous avez dû accueillir avec soulagement les efforts récents du gouvernement pour relancer ce secteur.
Ah oui, absolument. C'est pour ça qu'on est effectivement très très intéressé par ce qui va se passer sur ces filières. On parle d'industrie 4.0 aujourd'hui, effectivement. Hein, oui. C'est encore une révolution qui apparaît depuis un certain nombre d'années, mais qui continue à apparaître et qui fait couler beaucoup d'encre, notamment sur les métiers de demain à horizon 2030, puisqu'on estime que 85% des métiers à l'horizon 2030 n'existent pas encore.
Oui, oui, oui. Donc la souveraineté industrielle est la bienvenue.
Oui.
Alors ce salon des orientations de la transition professionnelle, ses objectifs, c'est l'orientation, nous l'avons dit, la formation, le recrutement, le coaching, l'entrepreneuriat et aussi le handicap, c'est-à-dire un programme très complet. Il va se tenir à la Cité des sciences et de l'industrie, donc tout un symbole. Pour ce salon.
Oui, effectivement, avec une ouverture le 29 novembre, donc c'est dès la semaine prochaine. Et puis sous un format aussi hybride, hein, puisque effectivement il y a eu c'est l'ancien salon des seniors, hein, qui a basculé sur le salon des transitions professionnelles, qui était prévu en préventiel à l'époque. Et puis entre deux, il y a eu la crise sanitaire, il y a eu effectivement les confinements successifs. Et pendant deux ans, c'était un format totalement à distance, en distanciel, format numérique et digital. Et là, nous reprenons, mais Cédalum en parlera sans doute mieux que moi. On reprend finalement un format mix comme on voit apparaître ces formats mix un peu partout aujourd'hui dans toutes les activités, c'est-à-dire à la fois en présentiel et à la fois à distance.
À distance, oui, puisque on a compris que c'était l'occasion de toucher beaucoup plus de personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Absolument.
Donc ce salon, il est là pour booster sa carrière, trouver une formation, trouver un métier qui a le vent en poupe, vous l'avez dit, créer son entreprise. Quand on crée une entreprise, il faut savoir les pièges à éviter, par où commencer, quelle forme juridique. Et puis, il y aura aussi des membres de la commission de certification de l'OPCO. Peut-être que vous pouvez nous en dire quelques mots, Christophe ?
Il y a effectivement sur ce salon un certain nombre d'acteurs, tous les acteurs de la sphère socio-économique au niveau de la des transitions professionnelles, de la formation en général seront présents, des organismes de formation, on l'a dit, la région, effectivement le Transition Pro Île-de-France pour lequel j'ai un mandat de vice-président, d'autres acteurs qui effectivement permettent d'accompagner tous les salariés, tous les publics en réalité qui ont un projet ou une idée de projet de reconversion professionnelle. Alors peut-être une petite nuance sur le salon des transitions professionnelles. Transition professionnelle, c'est un mot effectivement générique qui embrasse à la fois la reconversion professionnelle et la réorientation professionnelle. Une petite nuance sur la
sémantique,
sur la sémantique, puisque la reconversion, on part du principe qu'on a un changement d'activité qui est quasiment total, quasiment global. Je prends un exemple, un juriste qui veut devenir technicien de maintenance, c'est une reconversion totale avec un changement d'activité profond. Et puis la réorientation, c'est peut-être un virage qu'on prend et pour lequel on a un certain nombre de compétences peut-être transversales et puis on se dit tiens, on va faire quelque chose. Mmh. La transition, ça embrasse l'ensemble de ces ces deux termes, ce qui fait que effectivement il y a un besoin d'accompagner les personnes, de les orienter, de les accompagner, ça veut dire aussi de les orienter sur les spécialistes, les experts. Et il y en a beaucoup. On peut parler du conseil en évolution professionnelle et puis d'autres conseils sur le... on a parlé de VAE, de validation des acquis de l'expérience. Ça fait partie des outils et tous des dispositifs qui sont à disposition dans le domaine de la formation professionnelle pour permettre à toutes ces personnes d'évoluer professionnellement parlant.
Oui, donc vous avez raison de citer ce terme très générique, hein, transition. Et avec la crise, je crois que c'est un souci qui est très mis en avant aujourd'hui.
Alors c'est à la fois une chance et un souci, effectivement, puisque la crise sanitaire, bon, clairement, elle a révélé une chose, c'est que selon différentes études, encore une fois, un salarié sur deux a cette idée aujourd'hui de reconversion, de transition professionnelle. C'est pas rien. Hein. Ça veut pas dire pour autant qu'un salarié sur deux est pas bien dans son emploi. Mmh. C'est pas ça. C'est que effectivement, il y a peut-être une certaine appétence à se dire que effectivement, et on comprend que la formation initiale, le premier diplôme que l'on obtient ne gage pas toute une carrière professionnelle. Donc ça, c'est une idée profonde qui commence à devenir de plus en plus prégnante et la crise sanitaire l'a effectivement totalement révélée.
Révélée, oui. Les gens ont eu le temps de se poser, de réfléchir. On comprend qu'aujourd'hui, les gens veulent donner beaucoup plus de sens à leur activité professionnelle et ça génère
des nouvelles vocations.
Vocations, voilà,
oui,
c'est le mot que je cherchais.
C'est exactement ça. Alors, c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'accompagnement, parce que il faut faire aussi attention. Voilà, c'est pas parce qu'on est en quête de sens que derrière on va viser une transition professionnelle qui aboutira à l'emploi. Il faut être très vigilant par rapport à ça. On peut se faire une idée totalement à côté d'un métier pour lequel on a envie effectivement de changer de région, de passer d'un métier intellectuel à un métier manuel, encore une grande tendance. Bon, ça sous-entend que derrière il y a un projet professionnel qu'il faut étudier et qu'il faut préparer.
Et donc, c'est toutes ces spécificités qui vont se retrouver au salon des transitions professionnelles.
Absolument.
Le public qui va venir pourra poser toutes les questions s'il est en quête, justement, de reconversion.
Absolument.
Vous espérez quel type, justement, de public ?
Encore une fois, ce salon est ouvert à tous les publics, donc on n'a pas de cible. Je regarde ma collègue en même temps. Si elle...
C'est Dalhomme, je vous en prie, si vous voulez intervenir.
Alors, c'est un salon qui est effectivement ouvert à toutes les personnes qui s'interrogent en fait sur leur parcours professionnel et qui ont des envies de reconversion. Donc l'idée, c'est d'accueillir en fait les actifs diplômés ou non diplômés, qu'ils soient en fait en activité ou en recherche d'emploi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir à travers cet événement accueillir en fait des publics qui s'interrogent et qui pourront avoir l'occasion de rencontrer en fait différents acteurs en charge de l'orientation, de l'accompagnement, de la formation professionnelle en Île-de-France. Donc ce salon est vraiment ouvert à tous les franciliens qui souhaitent s'engager dans une reconversion ou même pouvoir rencontrer des entreprises qui recrutent, puisqu'aujourd'hui toutes les entreprises en Île-de-France sont confrontées à des problématiques de recrutement et des métiers en tension.
Oui, oui, absolument. Merci Cédalhomme Folie pour cette précision. Donc Christophe Djurkev, un salon qui s'annonce plutôt bien, j'imagine. Les autres années, vous avez eu combien de personnes qui sont venues à ce salon ?
Alors, j'ai pas les chiffres.
Vous n'avez pas les chiffres ?
J'ai pas les chiffres.
Plusieurs milliers,
j'ai
forcément.
J'ai pas les audiences, oui. J'ai pas les chiffres, j'ai pas les scores. Bon, mais déjà, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement le.
À peu près 12 000 personnes visiteurs sont venues lors de la dernière édition, donc en présence. Ou en ligne.
Oui, très bien, très bien. Bon, mais merci pour cette nouvelle précision, Cédalhomme. Christophe Djurkev, si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Eh bien, allez-y.
Allez-y. Donc, à ce salon des transitions professionnelles qui, je rappelle, aura lieu à la Cité des sciences et de l'industrie mardi prochain, 29 novembre, mais aussi en digital. Hein, et il suffit d'aller sur le site. Donc, sur quel site faut-il aller pour s'inscrire en digital?
Alors, sur le site www.salon-transition.fr.
Très bien. Merci beaucoup. Merci Cédalhomme Folli. Merci Christophe Djurkev pour toutes vos précisions. Et bien sûr, nous vous souhaitons tout le succès attendu pour ce salon.
Merci.
On fait une nouvelle pause avant de vous redonner la parole, Cédalhomme Folli. À tout de suite.
I'll be your algorithm. Follow your body and watch every way you move. I'll be your algorithm. Your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm. Your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me, because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need. You don't know, but I already sowed the seed. Spent time in my everlasting feed. We were made for each other. I'll be your algorithm. Follow your body and watch the way you move. I'll be your algorithm. Be your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm. Your algorithm. You know you got a lot of likes in your last post. The new app that you made up, you portrayed all pimped up. A new you looking souped up. There was loving emojis. How I love you so deeply. Our connection is growing so sweetly. On days when you're low, I can show you the world. I'm starting to know you completely. I'll be your algorithm. Follow your body and watch it the way you move. I'll be your algorithm. I'll be your algorithm. I'll be your
Vous écoutez bien IDFM Radio et le sujet de l'économie en direct ce matin est le salon des transitions professionnelles porté par le MEDEF Île-de-France qui aura lieu mardi prochain 29 novembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie avec toujours à mes côtés Cédalum Folie, Christophe Durkev et Jean-Marc Paris. Alors Cédalum, avec vous, on poursuit cette visite avant l'heure de ce salon des transitions professionnelles, mais sous l'angle de votre spécificité. Vous êtes responsable de la formation depuis peu. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots?
Alors, je suis arrivée au MEDEF il y a donc quelques mois pour accompagner donc le MEDEF Île-de-France et ses adhérents, donc les fédérations adhérentes et les MEDEF territoriaux, sur toutes les questions en lien avec l'emploi, la formation professionnelle, les compétences. Et au niveau de mon parcours, donc j'évolue dans le domaine de la formation professionnelle depuis une vingtaine d'années et j'ai accompagné des organisations de type OPCO, Union d'employeurs, mais également branche professionnelle sur ces différents sujets. Donc
Vous étiez
mon parcours.
Vous étiez toutes désignées donc pour obtenir ce poste de responsable. Donc aujourd'hui, vous accompagnez les entreprises dans des dispositifs de gestion de l'apprentissage dans l'enseignement secondaire et supérieur, c'est bien ça?
Alors, on accompagne en fait les entreprises pour promouvoir donc tous les dispositifs d'accès à l'emploi, dont le contrat d'apprentissage, qui est effectivement en fait un dispositif qui a été fortement en fait soutenu avec la loi Avenir Professionnel, mais également avec les différentes mesures mises en place par le gouvernement justement pour faire de l'apprentissage une voie d'accès à l'emploi et à l'insertion professionnelle pour les jeunes. Et donc le MEDEF a organisé plusieurs campagnes d'information et de mobilisation pour justement en fait présenter ce dispositif auprès des entreprises. Et nous avons également sur le terrain des développeurs emploi qui sont aussi en fait des salariés du MEDEF Île-de-France qui accompagnent de manière très opérationnelle les entreprises sur le terrain qui souhaitent en fait recourir à l'apprentissage.
Oui, c'est très clair. Et donc c'est pour cette raison que vous êtes en lien avec des instances officielles comme l'APEC et puis Pôle emploi.
Oui, oui, on est partenaire, donc l'APEC et Pôle emploi sont des partenaires de notre salon depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est également en fait des acteurs clés pour soutenir l'emploi et le développement des différents dispositifs tels que l'apprentissage.
Alors pendant la pause, nous posions la question du nombre de visiteurs hein, et on a pu voir que en 2019 il y avait eu 9000 présentiels et en 2021 12000 visiteurs en ligne, donc c'est une belle performance.
Tout à fait. Donc d'année en année en fait les visiteurs sont de plus en plus nombreux et comme ça a été indiqué par monsieur Jurkev en introduction de cet échange, donc à la base c'était un salon qui était orienté senior et petit à petit avec le temps donc la cible s'est élargie et on accueille aujourd'hui en fait des actifs de 30-40 ans qui s'interrogent aussi sur les reconversions professionnelles. Donc depuis 2019, le salon des seniors est devenu donc le salon des transitions professionnelles mis en place par le MEDEF avec l'ensemble des acteurs institutionnels au niveau de la région Île-de-France.
Oui, et toutes, on peut dire aujourd'hui toutes générations confondues.
Tout à fait.
Nous l'avons dit également avec Monsieur Durkev, il y aura des offres d'emploi qui seront proposées dans ce salon, ainsi que des alternances.
Tout à fait. Donc l'idée de ce salon, c'est également de pouvoir en fait permettre aux entreprises franciliennes qui recrutent. On l'a vu, hein, aujourd'hui, les difficultés de recrutement sont de plus en plus compliquées.
Oui.
Elles concernent tous les secteurs d'activité. Et donc l'idée, à travers ce salon, c'est aussi de pouvoir en fait permettre aux entreprises de valoriser leur métier et de faire la promotion en fait de leur offre d'emploi. Donc les visiteurs auront également l'opportunité de pouvoir rencontrer des entreprises qui recrutent sur la région Île-de-France.
Donc vous nous confirmez que pendant ce salon, toutes les activités professionnelles seront représentées?
Alors, il y a plusieurs secteurs qui seront couverts, hein, donc je ne vais pas les citer, mais l'idée, c'est d'avoir en fait une diversité des secteurs d'activité qui rencontrent des problématiques de recrutement en Île-de-France.
Aujourd'hui, vous pouvez nous donner quand même quelques idées de ces secteurs qui sont en difficulté au niveau du recrutement?
Alors, au niveau du recrutement, on a des problématiques de métiers en tension dans tout ce qui est restauration.
Oui.
On a également des problématiques de recrutement dans le transport, la logistique. Donc Monsieur Paris
pourra nous en dire un mot tout à l'heure, oui.
Un peu plus en détail. On a également des problématiques dans le secteur de la propreté. Donc tous les secteurs d'activité, vraiment, ça a été comment dire étayé par des études, rencontrent aujourd'hui des problématiques de recrutement. Donc l'idée, c'est de pouvoir offrir aux entreprises la possibilité de venir à notre salon pour justement présenter les opportunités d'emploi.
Très bien. Alors, je voudrais aussi qu'on parle de, parce que je l'ai cité en début de l'émission, c'est un salon qui va aussi parler du handicap, hein, et seront également présents des organismes comme l'AGFI, qui se mobilise pour proposer des offres d'emploi aux personnes en situation de handicap. Je vous laisse nous en dire quelques mots, Cédalom.
Donc effectivement, un axe du salon, c'est le soutien et l'accès à l'emploi des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc le MEDEF est partenaire de l'AGFIP, mais également de CAP Emploi, qui sont en fait des acteurs essentiels pour justement accompagner et soutenir les personnes en situation de handicap. Donc l'idée, c'est à travers ce salon de pouvoir en fait renforcer l'action de ces différents opérateurs et pouvoir en fait orienter, conseiller et accompagner les personnes en situation de handicap qui souhaitent en fait également accéder à un emploi ou se reconvertir vers d'autres secteurs d'activité.
Avec là encore des offres d'emploi et puis d'alternance éventuellement.
Tout à fait. Donc il y aura des offres d'emploi en alternance, mais aussi des offres d'emploi, on va dire, en CDI, CDD, donc classique.
Très bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, Cédalom, et à laquelle vous souhaiteriez répondre ?
Peut-être dire que voilà, c'est vraiment un événement important, ce salon. L'idée, c'est de mettre en place en fait un lieu de rencontre entre les publics ayant en fait des projets de reconversion, de formation, de création d'entreprise et les différents opérateurs. Donc moi, j'invite toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette cible à venir participer à ce salon en présentiel le 29 novembre et en ligne jusqu'à la fin de la semaine, donc jusqu'au 3 décembre. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir proposer des conférences, des ateliers en ligne sur les différents sujets en lien avec les cinq grandes thématiques du salon: orientation, formation, recrutement, coaching, création d'entreprise et handicap.
C'est ça, nous n'en avons pas parlé, mais il y aura, comme vous l'avez dit, des ateliers et des conférences, un programme que l'on retrouve sur l'adresse que vous nous avez donnée tout à l'heure.
Tout à fait. Toutes les conférences en fait sont, en tout cas, sont ouvertes via le site du salon, donc salon transition professionnelle au pluriel .fr. Donc vous avez toute la liste des conférences proposées par nos partenaires et les exposants.
Très bien. Un dernier conseil à donner à ceux à qui nous écoutent, Cédalom Folli.
Un conseil, peut-être bien préparer votre projet de transition professionnelle, parce que l'une des clés de réussite de la reconversion, c'est de pouvoir en fait s'informer au maximum en amont et aussi d'aller rencontrer tous les acteurs qui sont chargés de l'accompagnement, qui vont permettre une présentation des dispositifs, mais également des financements. Donc venez nombreux à ce salon et préparez bien votre conversion professionnelle pour la réussir.
Oui, c'est ce que nous a dit Christophe Durkev tout à l'heure. Il ne faut pas juste avoir un coup de cœur, il faut vraiment préparer à fond cette reconversion si on en a envie. Merci beaucoup, Cédalom, pour votre éclairage, et nous retiendrons que des ateliers, des conférences auront lieu pendant ce salon, à la fois en présentiel le 29 novembre et en hybride jusqu'au 3 décembre. Merci beaucoup, Cédalom Folli. On respire encore quelques secondes avant de donner la parole à mon dernier invité, Jean-Marc Paris.
Fais sauter le moniteur et les électrocardiogrammes.
Mon cœur sur IDFM 98 ou 98.fr. Dernière partie de l'économie en direct consacrée aujourd'hui au salon des transitions professionnelles porté par le MEDEF Île-de-France qui aura lieu mardi prochain 29 novembre à la Cité des sciences et de l'industrie. Et à présent, focus sur Jean-Marc Paris, délégué général du GATMARIF. Je rappelle que c'est le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, exposant à ce salon des transitions professionnelles et bien sûr partenaire du MEDEF. Merci Jean-Marc d'avoir patienté. Alors, peut-être pouvez-vous nous rappeler, Jean-Marc, le rôle du GATMARIF?
Oui, je vais rappeler en quelques mots le rôle du GATMARIF. En fait, le GATMARIF, hein, comme vous l'avez dit, l'acronyme est un peu compliqué, hein, parce que c'est le groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France. En fait, c'est une confédération, de fédérations, puisqu'on regroupe sous l'entité GATMARIF 11 fédérations de transporteurs. Et dans l'ensemble de ces fédérations de transporteurs, alors je ne vais pas toutes les citer, hein, il y en a 11, mais on retrouve les activités que ceux de la branche et de la convention collective, hein, à savoir le transport routier de marchandises, le transport de voyageurs, la logistique, les chargeurs, le transport, je dirais, fluvial. On a aussi, par ailleurs, je dirais, des fédérations qui sont des fédérations un peu transverses. Donc oui, on a 11 fédérations qui font partie, effectivement, du groupement des activités de transport et de manutention de la région Île-de-France, donc du GATMARIF.
Donc une confédération assez puissante.
Oui, c'est une confédération. Alors, pour la région Île-de-France, on a à peu près des chiffres, hein, puisqu'on a, on a aussi un observatoire prospectif du transport et de la logistique, hein, qui identifie sur le champ de la convention collective l'ensemble des métiers. Et c'est vrai que sur la région Île-de-France, on est à peu près, quand on cumule l'ensemble de ces activités-là, on est à 170 000 salariés et on a à peu près 10 000 entreprises. Donc, vous voyez, c'est quand même un secteur important et un secteur en évolution, en tension, parce que depuis 2017, nous avons été, et comme le disait cette dame folie, on a été identifié comme un secteur en tension. Mm-hmm. Donc c'est pas très très vieux, ça date de 2017, mais quand même, maintenant, avec le temps, on commence à sentir, je dirais, les problématiques au niveau du recrutement, au niveau de l'intégration des salariés.
Oui, j'avais reçu toujours sur les bons conseils de Elena Natalic qui a permis cette émission. J'avais reçu Jean-Pierre Gommet en 2000, je crois que c'est en 2019. Ça
passe très vite. Jean-Pierre Gommet, alors faut le rappeler, voilà. Jean-Pierre Gommet qui est président du GATT Marif, hein,
ouais.
Et qui est aussi président de l'AFT. Et qui a d'autres mandats au MEDEF et au sein aussi du Conseil régional d'Île-de-France. Voilà.
Alors vous me tendez la perche, Jean-Marc Paris, puisque vous êtes également délégué à AFT, un organisme hyper spécialisé de formation et de l'emploi des transports logistiques.
Alors, petite rectification,
oui, c'est
pas
prie,
tout. Oui, oui, parce que l'AFT a connu un certain nombre d'évolutions. Vous avez connu, on en a parlé tout à l'heure, de l'AFT IFTIM, qui était une entité qui a été créée par les fédérations de transporteurs en 1957. Donc, c'est déjà, ça date déjà un petit peu. Elle a évolué, et puis depuis maintenant 2015, elle s'appelle l'AFT. Et on a eu un changement un petit peu de paradigme, on s'est positionné vraiment sur l'emploi, la créativité, le recrutement, parce que depuis 2017, c'est vraiment une problématique que connaissent nos entreprises. À titre d'information, je redonne toujours les mêmes chiffres, on est quand même sur des métiers où, au niveau national, on est à entre 40 et 50 000 besoins annuels.
Ah oui,
en région Île-de-France, et on verra quels sont les secteurs qui sont concernés, et en région Île-de-France, on est à peu près entre 7 et 10 000 salariés, dont les entreprises ont besoin. Alors, on a connu pendant les deux dernières années, effectivement, une problématique que nous avons tous traversée, la crise de Covid. Mais vous avez continué, nous avons continué à voir, effectivement, dans nos magasins, dans la distribution, grande distribution, notre paquet de beurre au même endroit et à la même heure. Et on dit toujours que si vous l'avez, c'est qu'un transporteur vous l'a apporté.
Oui.
Et si vous l'avez à 9h du matin, ça veut dire que en termes de transport, il y a toute une logistique derrière ces métiers-là qui s'est mise en œuvre à partir de 3h, 4h du matin. Voilà. Donc la problématique de métier en tension, elle existe effectivement depuis quelques années. Et on a une grosse, je dirais, un gros flux de recrutement qui sont identifiés, enfin qui est identifié sur les conducteurs. Hein, c'est vraiment une constante qui revient, pas que dans notre
pays. Oui, dans votre
pays.
Oui,
puis dans d'autres pays. Hein, vous avez, moi j'ai même vu effectivement au Canada cette problématique-là. En Allemagne, pareil. En Italie, c'est quelque chose d'assez récurrent. D'abord parce qu'on avait une pyramide des âges qui était assez aplatie, ce qui fait que quelque part, effectivement, on a eu des départs à la retraite. À peu près dans les mêmes dates. Et puis sur ces métiers-là, effectivement, c'est toujours pareil, hein, la conduite d'un poids lourd, c'est pas un vélo, c'est pas une trottinette, hein, donc ça demande une formation spécifique de plusieurs mois, un investissement en matériel, un investissement en financement. Et c'est vrai qu'on doit travailler sur l'attractivité des métiers. C'est pour ça qu'on fait partie, qu'on est vraiment, j'ai envie de dire, cheville ouvrière de ce salon, parce que c'est très important. Et on a eu aussi on a identifié, si vous voulez, un âge moyen des gens qui rentrent dans ces métiers-là. Et on a à peu près, l'âge moyen, c'est entre 40 et 45 ans. Donc ça veut dire que ce sont des métiers de seconde partie de carrière. Oui. Donc effectivement, ce que disait Christophe tout à l'heure par rapport...
Ce ne sont pas les très jeunes qui se dirigent.
Alors, il y en a, évidemment, il y a des jeunes, puisqu'il y a des contrats d'apprentissage, il y a des contrats de professionnalisation. Sur la région Île-de-France, c'est plusieurs milliers de contrats d'apprentissage dans nos métiers. Mais aussi, on a, je dirais, une grosse cohorte sur les métiers et sur des gens qui viennent dans nos métiers à partir de 40-45 ans sur une seconde partie de carrière. Donc là, effectivement, ce salon-là, c'est pour ça qu'on est très impliqué, parce que quelque part, c'est quand même un gros flux de gens que nous pouvons récupérer et intégrer dans nos métiers. Alors que ça soit le transport routier de marchandises, le transport de voyageurs. Alors après, avec des profils un petit peu différents, sur le fluvial c'est encore un peu différent, mais quand même la reconversion, je dirais, est quand même un gros flux de personnes qui viennent et qui accèdent à ces métiers-là.
Est-ce que vous avez identifié les raisons de cette crise ?
Les raisons, on essaye de les identifier tous les jours. Elles sont multiples, en fait. Elles sont multiples. Je pense que Christophe le disait, c'est l'homme tout à l'heure aussi. On a l'attractivité des métiers. C'est quand même une problématique sur laquelle toutes les branches travaillent aujourd'hui. Hein. C'est pas, il n'y a pas que la branche transport logistique. Toutes les branches travaillent sur cette problématique-là. On a, je le disais, la pyramide des âges. Mmh. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est un vrai problème. Et puis, effectivement, je crois qu'on a une émergence hein, de nouveaux métiers qui arrivent dans ce secteur-là. On l'a vu avec le développement du e-business, du e-commerce. Par an, c'est à peu près entre 8 et 10% d'augmentation, je dirais, de flux. Ce qui veut dire qu'en termes de, je dirais, de développement commercial, bah vous le voyez assez facilement. Prenez la N118, prenez la 6, prenez la 10, partout on voit des sites logistiques qui se créent. Et à partir de là, ça demande effectivement, quand vous avez un site logistique, vous avez, je dirais, toute une cohorte de véhicules, de poids lourds qui viennent alimenter ce site logistique et qui donnent naissance à des nouveaux marchés. On a des nouveaux marchés qui sont des marchés émergents. Je pense que vous avez tous eu des enfants quelque part qui ont commandé sur Internet un produit ou vous-même, quand vous avez un produit, effectivement, quelque part, vous avez forcément de la livraison à domicile avec une, je dirais, une offre commerciale avant 9h, avant 10h, avant midi, avant 13h ou alors c'est sur le jour J plus 1. Donc ça donne une offre commerciale qui aujourd'hui incite le consommateur à être plus près du marché. C'est-à-dire que quand vous commandiez il y a à peu près une dizaine d'années ce qu'on appelait la VPC, la vente par correspondance, on l'a tous fait avec, je ne veux pas citer les catalogues, mais vous les connaissez, vous les identifiez. Voilà, les catalogues du Nord. On commandait à 4-5 jours. Aujourd'hui, quand vous commandez, c'est dans la journée. Il y a un grand opérateur que je ne vais pas citer, mais c'est un peu délirant. Donc quelque part, ça génère effectivement des flux qui sont différents. Ça va générer aussi, quelque part aussi, je dirais, une approche environnementale différente. Parce que quand vous commandez, moi j'avais vu avec mes filles, un rouge à lèvres qui fait 5 cm et quand le colis fait 40 sur 40, effectivement, pour pas qu'il se perde, effectivement, ça demande quelque part une compétence environnementale pour avoir ce qu'on appelle, je dirais, du recyclage derrière. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et puis, il y a des métiers qui sont des métiers émergents qu'on connaissait pas il y a quelques années, c'est plutôt positif, hein, et qui viennent sur le marché et qui alimentent effectivement tout ce flux logistique. Voilà.
Alors, on a beaucoup parlé des conducteurs de bus scolaires hein, manquant à l'appel pour la rentrée. Moi, j'ai lu en préparant le dossier qu'il pouvait y avoir dans les raisons de la crise une méconnaissance du métier qui fait l'objet de stéréotypes. Sont des métiers plutôt masculins, on a les mains dans le cambouis, mais il y a aussi de l'insécurité, de l'incivilité. Est-ce que ça, c'est...
Oui, alors il y a beaucoup de choses vraies dans ce que vous dites. Je vais les reprendre une par une. Alors, moi, c'est toujours pareil. C'est toujours le chiffre que je mets en avant sur la féminisation des métiers.
Oui.
Parce qu'on a toujours l'idée que dans ces métiers-là, c'est ce que vous disiez, c'est un métier d'homme. Ben, on a des chiffres, par exemple, en Ile-de-France, hein, l'Observatoire qui donne du transport logistique qui donne ces chiffres-là. L'année dernière, on était à 19,2% de public féminin dans nos métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend d'autres branches professionnelles, il y a une branche que je vais pas citer, mais qui est aussi dans le transport, mais dans une autre activité de transport du côté de Roissy, on est à peu près à 22-23% de, je dirais, de féminisation des métiers. Or, quand on prend l'avion, bien souvent, on voit beaucoup de femmes. Et on n'imagine pas que derrière, voilà, le chiffre est pas si loin de celui du transport et du champ de la convention collective. Donc, on a une féminisation qui est une féminisation en devenir, qui est en croissance tous les ans. Cette féminisation évolue. Donc ça veut dire que ce métier-là attire des femmes. Après, on a des métiers sur lesquels on a une problématique, qui est une problématique, et vous le disiez, effectivement, de port de charge. Donc là, c'est vrai que si on prend les métiers de la maintenance, sur la maintenance, on va être sur des métiers de la féminisation de 4-5%. Donc effectivement, il y a une différence. Mais quand on fait le cumul entre toutes les activités, support, conduite et autres, on arrive à peu près à 19-20% de féminisation. Sur les mains dans le cambouis, alors ça c'est toujours une idée un peu préconçue. Aujourd'hui, quand vous avez un poids lourd qui crève, hein, mais ça vous le voyez, on le voit un peu partout, il y a pas personne qui change la roue. Hein. Donc vous avez une entreprise de maintenance qui vient, qui remet le véhicule, qui change effectivement. Sur ce qu'on appelle un pneu jumelé, ça pèse à peu près une centaine de kilos. Que vous soyez une femme ou un homme, moi les 100 kilos, je les porte pas. Quelque part ça, voilà. Et puis on a aussi un autre métier qui est émergent, c'est quand même la digitalisation. Ça, il faut vraiment en parler, parce que la digitalisation mondialisation, elle nous a tous impactés, mais elle impacte aussi ces métiers-là. C'est-à-dire que la traçabilité, quand vous commandez sur Internet un produit, votre téléphone portable, sans citer de marque, effectivement, vous avez la possibilité de savoir, il est parti de Hong Kong, il est parti de Chine, il a traversé à tel moment, il a pris le transport routier de marchandises, il a pris l'avion, et il sera livré après-demain à 15h, et de plus en plus vous avez la possibilité d'avoir une traçabilité effectivement de votre colis, qui est une traçabilité qui correspond à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement, on vous dit ça va être livré à 15h, c'est livré à 15h.
Absolument, ouais, c'est vrai. Merci Jean-Marc Paris pour toutes ces précisions. Vous parliez de maintenance. Alors il y a le déploiement des flottes électriques qui crée aussi des tensions aujourd'hui puisque sur les métiers de la maintenance.
Oui, alors le problème des flottes électriques, c'est que effectivement on va y aller, mais avec quels moyens pour le moment, c'est toujours pas réglé. C'est-à-dire que aujourd'hui, si on interroge les constructeurs, les grands constructeurs de véhicules poids lourds, l'offre ne permet pas d'aboutir à un résultat qui soit probant en région Île-de-France ou dans d'autres régions. Alors on a, vous l'avez vu, hein, disparition à très court terme de tout ce qui va être motorisation, qui va être, d'abord le gasoil, hein, qui va disparaître à l'aube de 2024. Hein, et puis on a la perspective des JO qui est en train de se mettre en place. Et puis après du thermique, hein, sur 2030-2035, ça devrait disparaître. Mais aujourd'hui, l'offre ne permet pas, en tout cas sur, la partie industrielle, de pouvoir fournir la demande qui est celle des transporteurs. Et c'est vrai que c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand vous achetez un véhicule, que ce soit un particulier ou un professionnel, vous n'achetez pas un véhicule pour 2, 3, 4, 5 ans. C'est quand même un véhicule qui s'amortit sur plusieurs, voire pratiquement 7, 8, 9 ans. Et aujourd'hui, vous avez la problématique politique de savoir ce qu'on fait par rapport à l'offre et par rapport, à la possibilité du transporteur qui, lui, doit se projeter à 5, 6, 7, 8, 9 ans pour un amortissement du véhicule. Si dans 3 ans, on lui dit, le thermique, c'est plus possible parce qu'on avance les dates et vous avez acheté un véhicule thermique, qu'est-ce qu'il va en faire. Oui. Donc c'est une vraie problématique économique, c'est une vraie problématique, industrielle. Et ça, pour le moment, elle n'est pas résolue.
Oui, j'ai reçu il y a quelques mois une chef d'entreprise d'une entreprise de transport. Je l'ai reçue parce que c'était une femme, justement, et je trouvais que c'était intéressant. Elle me décrivait exactement ce problème. Elle a investi dans des véhicules qui aujourd'hui ne correspondent pas à l'offre qu'elle en attendait. Jean-Marc Paris, votre présence donc au Salon des Transitions Professionnelles va plus que jamais tendre à rassurer les candidats à ces métiers?
Écoutez, on va essayer.
Parce ça, toujours en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui avaient envie de se reconvertir dans les transports.
Oui, c'est vrai que depuis un certain temps, on a beaucoup de personnes qui viennent nous voir. Donc ce sont des métiers effectivement sur lesquels vous savez, l'image, pour faire évoluer une image, il faut des années pour faire évoluer une image, hein. Donc c'est quelque chose qui est qui demande du temps, qui demande de l'énergie, de l'investissement. C'est vrai que on a un peu cette vision un peu caricaturale que vous avez évoquée tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est bien, c'est au contraire, ça permet effectivement de mieux comprendre. Il faut comprendre que dans le transport, souvent les gens pensent transport, conduite routière, mais il n'y a pas que. C'est-à-dire que vous allez avoir des fonctions support comme dans toutes les entreprises, vous allez avoir un DAF, une RH, des gens qui vont faire du management, beaucoup de management. Moi j'ai travaillé dans une entreprise de transport, c'est toujours ce que je dis, je travaille la nuit, et je disais, la chose que je fais le plus la nuit, c'est quoi votre activité? Je disais, je serre des mains.
Oui.
Mais quand on dit qu'on serre des mains, c'est pas serrer des mains, c'est dire, quand on serre la main à quelqu'un, d'abord on sent la température de la main, on sent comment elle est dirigée, et on appréhende tous les problèmes de la personne dans l'aspect positif et dans l'aspect négatif. Et c'est ça du management. Le management, c'est pas quelque chose qui doit rester théorique. Mais le fait de serrer des mains, et moi je me souviens, je devais serrer à peu près 300 à 400 mains d'opérateurs logistiques, et ça donne la température.
Oui,
on est dans des métiers où, si vous voulez, Le management, c'est ce qu'on dit, c'est un peu caricatural, mais c'est du management à la machine à café. Mais c'est super important, ça. C'est-à-dire, quand on va prendre un café avec quelqu'un, tiens, alors, ben, dans ta famille, comment ça va? Ah, t'as des problèmes, c'est quoi? De quel ordre? Comment ça se passe? Et c'est ça, l'échange.
Oui.
Et c'est ça, le vrai management.
Éviter d'avoir la tête dans le sac.
Mais
voilà.
Tout le temps. C'est, effectivement. Et là, on a 5 minutes qui sont des minutes cruciales parce que ça permet d'échanger avec un salarié. Et c'est vrai que, dans le cadre, effectivement, de ce salon, qui va se dérouler, on a de plus en plus de personnes qui vont venir nous voir avec un besoin de changement. Il y a aussi un grand besoin de changement, je dirais, dans les mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, enfin, MEDEF aussi fait des analyses de ce type-là. On fait des métiers à 5, 6, 7, 8, 10 ans. On fait plus de 30 à 40 ans d'activité professionnelle.
C'est ça, ça n'est plus, on ne fait plus sa carrière totale dans la même branche. Ouais. Et donc, ce salon va être pour vous le moyen de concrétiser sa reconversion ou son évolution professionnelle?
Oui. Alors, l'objectif, c'est comme ce que disait Cédal Homfoli. Nous, on va récupérer des profils. Mmh. On a des profils d'entreprise, des offres qui nous ont été transmises. On a plusieurs milliers, quelque part. Alors, effectivement, on les répertorie, on les catégorise en fonction des métiers. Et l'objectif, c'est de faire l'interface entre l'offre et la demande. Mmh. Et puis, d'envoyer directement aussi avec un certain nombre d'outils dont nous disposons, les profils à des entreprises en direct.
Voilà. Bien sûr. Alors, on se posait la question pendant une pause, et là, je m'adresse à vous trois, de savoir si vous avez un retour, des retours sur le public qui vient dans ce salon après avoir consulté vos experts, vos conseillers. C'est Dalom Folie, peut-être.
Alors sur effectivement, c'est important de pouvoir en fait mesurer l'impact du salon sur les réelles reconversions professionnelles. Mmh. Et donc on transmet systématiquement un questionnaire de satisfaction aux visiteurs, aux participants. L'idée, c'est de nous permettre en fait d'améliorer notre salon d'année en année.
Bien sûr.
Mais effectivement, il faudrait qu'on puisse mettre en place, je sais pas, des indicateurs pour vérifier si le salon a réellement un impact sur les reconversions professionnelles et peut-être faire le lien avec les dossiers qui sont présentés à l'agence Transition Professionnelle suite au salon. Donc je
c'est
me retourne vers
que vous passez à Christophe
Monsieur Jurkev pour
Jurkev, oui.
Sur ce point.
C'est pas une agence.
L'association.
Non, c'est une association à gouvernance paritaire. Donc c'est-à-dire à la fois avec un conseil d'administration qui est composé d'organisations d'employeurs et d'organisations salariées.
Oui.
Oui, alors en retour, on fait effectivement, nous, des enquêtes, ce qu'on appelle les enquêtes de bénéficiaires, à 6 mois ou à 1 an après la formation. Donc pour des bénéficiaires, c'est des gens qui effectivement avaient une idée de reconversion professionnelle et se sont fait financer une formation. Donc on les enquête et on s'aperçoit que plus de 50% on fait cette transition professionnelle.
D'accord, oui, donc
plus
c'est un chiffre
des
très
bénéficiaires,
parlant.
Voilà. Et 60% de ceux qui n'ont pas bénéficié d'un accompagnement financier, donc leur dossier n'a pas été, hélas, financé, 60% d'entre eux font quand même cette transition par leurs propres moyens.
Okay.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne de traitement, entre guillemets, entre l'idée naissante de la reconversion, de la transition professionnelle, et puis les mois et les années qui passent en fonction de ce que l'on met entre les deux temps. On a quand même, effectivement, des gens qui, à partir du moment où l'idée, et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ce projet doit être quand même mûri à un moment ou un autre, et il mène à la transition professionnelle.
Donc, c'est un mot à la mode, mais on va dire que c'est une chaîne vertueuse, finalement. Donc, Jean-Marc Paris, on a évoqué tout à l'heure peut-être quelques mots rapidement, puisque je crois que c'est un vrai problème au niveau des conducteurs de transport, d'Île-de-France, des solutions.
Alors, c'est un problème national, pas régional, et c'est même un problème européen. Je pense que les solutions... on a autour de la table beaucoup de partenaires qui nous accompagnent. Tout à l'heure, Cédal Homfoli parlait de la PEC, Pôle emploi. Par exemple, on fait la semaine du 4, du 5 au 9 décembre, on fait la semaine du transport et logistique avec les opérateurs de Pôle emploi au niveau national, pas qu'au niveau régional. Des solutions, il y a des solutions qui sont multiples. Je pense qu'il faut aiguiller le travail sur l'ensemble des catégories socio-professionnelles et puis des classes d'âge. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accompagnement sur les jeunes, les personnes qui sont un peu moins jeunes. Alors c'est vrai que sur les jeunes, ce que disait Sadalom, vous avez les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation sur lesquels on est dans une progression, je dirais, sur l'ensemble des branches, puisque on a atteint 500 000, on va vers les 750 000 et peut-être au-delà. Donc travailler sur l'ensemble des publics, c'est ce que je disais, il faut travailler aussi sur le public féminin, donc c'est hyper important. Par exemple, on fait des interventions dans les collèges, dans les lycées, moi j'en fais toutes les semaines. On fait des interventions chez Pôle emploi, donc l'information, l'orientation, c'est des questions sur lesquelles il faut, je dirais, travailler de façon continue, parce qu'il n'y a que le long terme et pérenne, il n'y a que le long terme qui permet d'avoir des résultats probants. Travailler sur l'ensemble des classes d'âge. Pas oublier aussi, je dirais, c'est pour la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, les gens même au-delà de 55 ans, pense que c'est très important. C'est vrai qu'on a des instruments qui des fois considèrent qu'un un senior, c'est un senior à partir de 45 ans, mais sur l'employabilité, on a des secteurs d'activité, notamment en transport routier de voyageurs, sur lequel on a des gens qui ont 58, 59, 60 ans, qui sont recrutés et qui donnent satisfaction et qui font encore une seconde carrière dans ces entreprises-là. Donc les facteurs, sont multiples.
Oui.
Il y en a pas qu'un seul. S'il y avait une recette magique, j'ai envie de dire que entre tous les opérateurs qui travaillent sur ces questions-là, institutionnelles, d'État, de région, là, il ne faut pas oublier la région Île-de-France, le MEDEF, les MEDEF locaux, si on avait une seule solution et si c'était si facile que ça, on y serait arrivé depuis quelques longtemps. Depuis longtemps.
Je voulais ajouter aussi, alors bien sûr pas pour les transports en commun, mais pour le transport et la manutention et logistique, c'est aussi l'opportunité de se mettre à son compte, de créer son entreprise.
Oui, alors là-dessus il y a deux choses. La particularité de nos métiers, c'est que d'abord il y a une offre de formation qui va du CAP jusqu'au bac plus 6. Ça c'est il faut pas l'oublier, parce que souvent on oublie, et quand on rencontre des parents d'élèves, les parents d'élèves nous disent on a un secteur sur lequel il n'y a pas de bac professionnel, ou s'il n'y a pas de BTS, ou s'il n'y a pas de master 1, il n'y a pas de master 2, j'en vois pas mes enfants. Donc c'est complètement faux, puisque on a, je dirais, une offre de formation qui va, je dirais, du CAP jusqu'au bac plus 6. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut effectivement travailler, parce que elle existe. Il faut en faire la promotion. Et ça c'est hyper important.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Paris pour ces explications. Nous avons compris que vous allez poursuivre votre mission sans perdre de vue les objectifs fixés. Alors, notre émission va se terminer bientôt, mais avant de nous quitter, je refais un tour de table. Je vais peut-être commencer par vous, Christophe Djurkev, si vous voulez nous dire un mot de conclusion.
Je crois que c'est un salon qui, effectivement, a le mérite d'exister, et surtout en ce moment. C'est un salon sur lequel on va pouvoir se renseigner sur un certain nombre de choses pour se former, créer son entreprise, on en a parlé, et y compris de trouver un emploi, puisqu'il y a des offres d'emploi qui sont à disposition, et accompagner toutes les personnes, tous les salariés, tous les demandeurs d'emploi qui ont des projets professionnels. Dans un contexte, et on en a parlé, dans un contexte où effectivement il y a un bon nombre de branches professionnelles qui recrutent, qui ont besoin de main d'œuvre. Je pense que c'est intéressant, et en même temps il y a un certain nombre de dispositifs
existants pour
accompagner, former et financer toutes ces opérations. Donc c'est pas inutile de passer sa tête à ce salon pour savoir de quoi il est question. Tout ça sur fond, effectivement, on en a parlé de métiers à forte perspective d'évolution, métiers dits porteurs, de métiers émergents. De toute façon, tous les secteurs qui ont innové et tous les secteurs qui innovent font que les métiers se bousculent, les métiers changent, ils évoluent. Donc nous avons besoin de compétences qui évoluent également. Et c'est un salon qui est très intéressant.
Qui a toute sa raison d'être.
Titres, oui.
Merci beaucoup Christophe Djurkev. C'est Dalom Folie, un mot de conclusion.
Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, en fait, le salon des transitions professionnelles organisé par le MEDEF Île-de-France est un événement important pour les visiteurs, mais également pour l'ensemble des partenaires qui se sont fortement mobilisés autour de cette quatrième édition. Et donc, notre salon sera inauguré le 29 novembre en matinée, avec la présence de nombreuses personnalités dans le champ de l'emploi, de la formation, de l'orientation. Et on a également l'honneur d'avoir donc un représentant du ministère du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Et nous aurons également la présence du président délégué du MEDEF en charge des questions d'emploi et de formation professionnelle, monsieur Patrick Martin, qui sera présent à l'inauguration de notre salon. Peut-être un élément aussi important, dire que le MEDEF organise dans le cadre de ce salon une table ronde,
oui,
avec donc les acteurs en charge de l'orientation et de l'emploi en Île-de-France. Et l'idée de cette table ronde, c'est de pouvoir en fait faire dialoguer des intervenants sur leur regard des reconversions, des transitions professionnelles en Île-de-France.
Très bien, merci beaucoup Cédal Homme-Folie. Je voulais dire que à cette inauguration sera présent aussi Michel Jonker, qui est le président du MEVO, le MEDEF du Val d'Oise, que nous connaissons bien chez IDFM Radio. Merci beaucoup. Jean-Marc Paris, un mot de conclusion?
Bah écoutez, un mot de conclusion, c'est un peu la conclusion serait un peu la bataille de l'emploi. C'est un vaste sujet. C'est très compliqué, mais on a la chance, et on le voit aujourd'hui, hein, c'est d'avoir au niveau d'un point de vue institutionnel, au niveau des opérateurs, et même de façon interbranche, d'avoir cette transversalité qui permet, je dirais, d'avoir une optimisation de notre action.
Oui.
Ça, c'est quelque chose. Moi, je travaille dans ces métiers-là depuis maintenant 90, donc j'ai vu hein, des changements politiques de droite, de gauche, mais l'important, c'est effectivement d'avoir ce consensus entre, je dirais, les parties institutionnelles, les différents opérateurs, l'État, la région, et ça permet de faire avancer les choses.
Oui, voilà. Avec en ligne de mire l'emploi,
oui,
l'emploi,
voilà,
l'emploi.
Exactement.
Merci beaucoup à chacun pour votre présence. Merci d'avoir présenté en détail ce salon. Donc, je le rappelle, qui aura lieu le 29 novembre prochain, mardi prochain, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, porté par le MEDEF Île-de-France, avec beaucoup de secteurs représentés pour trouver un emploi, de l'alternance et de précieux conseils. Merci infiniment. Merci à tous pour cette volonté de promouvoir la formation et l'emploi. Dans quelques instants, à 11h, la suite des émissions avec la balade musicale présentée par Christophe Gravreau. Merci Francky pour la technique. Merci à vous tous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité, comme à chaque émission. Grâce à vous, l'économie en direct est située dans le top 3 des émissions. Donc voilà, je le dis, je suis très fière. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son intégralité sera disponible sur le podcast mis en ligne sur le portail de la radio idfm98.fr. Vendredi prochain, nous parlerons encore d'un salon, mais tout autre, puisqu'il s'agira du salon du livre historique de Beaumont-sur-Oise. Alors à vendredi, d'ici là, bonne semaine, prenez grand soin de vous et de vos proches.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.